الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة الرابع والعشرين من شهر جماد الآخرة عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السادس والعشرين من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 10 mars 2018 et nous entrons, inshallah, dans le 26e cours de ce livre qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. Lors du dernier cours, nous avons vu la parole de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala concernant la position médiane occupée par les gens de la sunna avec les autres sectes, avec les sectes plutôt, avec les groupes de l'islam. Nous avons dit que tout comme les gens de la sunna sont de juste milieu ou que les gens de la sunna sont de juste milieu dans le cercle de l'islam, tout comme l'islam est de juste milieu par rapport aux autres religions, dont certaines ont exagéré pendant que d'autres ont fait preuve de laxisme. À l'intérieur de l'islam, certains ont exagéré et d'autres ont fait preuve de laxisme. Les gens de la sunna sont les gens de juste milieu dans tous les points de vue et dans tous les sujets. Nous avons vu comme exemple qu'ils sont dans le juste milieu dans les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, entre ceux qui renient et ceux qui affirment en assimilant les noms et les attributs à Allah, tabaraka ta'ala, à ceux d'Allah. D'un côté, il y a une extrême qui renie. De l'autre côté, il y a une deuxième extrême qui, elle, affirme tout en déclarant que ses attributs sont similaires à ceux d'Allah, Azza wa Jal. Il y a ceux qui ont exagéré, ceux qui ont délaissé complètement. Les gens de la sunna sont de juste milieu. Ils ne suivent ni les uns ni les autres. Que font-ils au contraire ? Ils affirment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé comme nom et attribut, tout en niant qu'il puisse y avoir une similitude ou ressemblance. Les gens de la sunna sont de juste milieu par rapport aux autres groupes dans la croyance au destin. Il y a ceux qui ont complètement nié le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait prédestiné nos actions, nos paroles, cette parole que vous entendez de moi actuellement, d'après eux, c'est moi qui en suis le créateur, wal'iyadhu billah. Et ça, c'est du kufr, sans le moindre doute, c'est de la mécréance. De l'autre côté, il y a ceux qui ont dit, nous affirmons qu'Allah a décrété, mais ils ont nié que l'homme puisse avoir le libre arbitre. Ils ont dit, nous sommes condamnés à suivre et nous n'avons pas le choix. En cela, nous sommes à l'image de la feuille qui tombe de l'arbre et qui est dirigée par le vent. C'est-à-dire que d'après eux, là, ce que vous entendez de moi, ce n'est pas de mon choix. Et vous qui êtes venus ici, n'êtes pas venus de votre choix. Mais subhanallah, حتى العقل لا يقبله. Même la raison, la personne doué de raison, ne peut pas accepter ça. Et maintenant, on va poursuivre dans ce registre. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a continué et a dit وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي باب أصحاب رسول الله sallallahu alayhi wa sallam, bayna al-rafidah wal-khawarij. Ainsi, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, dans le chapitre des menaces divines, c'est-à-dire dans la question des textes du Coran et de la Sunna traitant des menaces faites par Allah à ceux qui commettent de grands péchés. Il y a beaucoup de menaces. Allah ne le regarde pas, Allah ne lui parlera pas, que la malédiction d'Allah soit sur lui, celui qui fait telle et telle chose ne sentira pas l'odeur du paradis, celui qui fait telle et telle chose. Comment est-ce que l'on appelle ces textes ? Nusus al-Wa'id, les textes de la menace. Les gens de la Sunna ont une croyance vis-à-vis de ces textes. Entre deux extrêmes encore. Il nous dit, dans le chapitre, c'est-à-dire dans le sujet, des menaces divines, ils sont, les gens de la Sunna, entre ce que l'on appelle al-Murdi'a, écrit ici Murdit, et al-Wa'idiyya, on vous expliquera, Inch'Allah, parmi les Qadariyya et les autres. Concernant, donc, on va s'arrêter d'abord sur cette phrase. L'auteur, rahimahullah, vous l'avez compris, va passer à un autre point. C'est le point de la question de al-Wa'id, la menace. La menace, comme nous l'avons déjà dit, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal envoie à ses serviteurs comme menace s'ils commettent tel et tel péché. Il ne sentira pas l'odeur du paradis, il ne fera pas telle et telle chose, il est maudit, Allah ne l'aime pas, ne lui parlera pas, ne le regardera pas. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est une menace. Les textes de la menace, il y a eu trois groupes. Ceux du juste milieu, les gens de la vérité, et deux extrêmes. Qui sont ces deux extrêmes? Les gens de la Sunna sont entre les Murji'a et Al-Wa'idiyya, parmi ceux que l'on appelle Al-Qadariyya et autres. Premièrement, qui sont les Murji'a? Al-Murji'a, ce mot, vient du mot Irja, ou du verbe Arja'a. Et Arja'a, dans la langue arabe, signifie akhara, c'est-à-dire mettre à l'arrière. On peut aussi dire exclure. Ces gens-là ont été appelés murdi'a, ceux qui excluent, ceux qui mettent à l'arrière. Pour quelle raison? Parce que d'après eux, dans leur croyance à eux, qui n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne font pas partie de la foi. Vous allez voir, on va rentrer plus loin, inchallah, dans le chapitre sur la définition de la foi. La foi est composée de trois choses. Les convictions du cœur, la conviction du cœur, les paroles de la langue et les actions. Les actions du corps et du cœur. On entrera dans tous ces détails au moment voulu, Inch'Allah. Donc, les gens de la Sunna disent que les actions font partie de la foi. Ainsi, tu ne peux pas être croyant si tu n'as pas d'action. Celui qui ne fait pas de bonnes actions du tout ne peut pas être croyant. Il n'est pas croyant. À l'unanimité des gens de la Sunna. Al-Murji à eux disent non. Les actions ne font pas partie de la foi. Qu'est-ce que cela implique? Et qu'est-ce que ça veut dire? D'après eux, la désobéissance commise par la personne ne la nuit pas. Et la bonne action qu'elle fait ne lui tire pas profit. Parce que pour eux, la foi du plus pervers est la même que celle de Jibril, alayhi salam. Wal'iyadu billah. Et les actions, bonnes ou mauvaises, n'ont pas d'impact sur l'ajout ou la diminution de la foi. Ce qui est bien sûr complètement faux. Et c'est un grand égarement. Et ils ont donc dit que le fasiq, celui qui est pervers chez les gens de la sunna, c'est celui qui commet de grands péchés. Celui qui est pervers, pour eux, il est comme Jibril alayhi salam. Parce que la foi pour eux ne monte pas ni ne baisse. Et ça c'est gravissime comme nous l'avons dit. Le Cheikh Salah al-Fawzan nous dit « Al-Murji'a nisbatan ila al-irja wa huwa al-ta'khir summu bidhalika li annahum akharu al-a'mal an musamma al-iman » Comme nous l'avons dit, ils ont été appelés ainsi car ils ont exclu les actions de la foi. « Haythu za'amu anna murtakib al-kabirati ghayra fasiq » Ils ont prétendu que celui qui commet un péché majeur, celui qui boit de l'alcool, celui qui ment, celui qui fornique, qui vole, eh bien pour eux n'est pas un pervers chez Allah. On ne dit pas qu'il est pervers pour eux. وَقَالُوا لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ وَلَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ Ils ont été jusqu'à dire que tant que la personne a la foi, le péché ne la nuit pas, ne l'atteint pas. Tout comme lorsque la personne est mécréante, les bonnes actions ne lui sont pas d'aucune utilité. Al-kafiru billah. Al-kafir. Le kafir, quand il va rencontrer Allah, il a fait des bonnes actions. Il a donné, offert, partagé et autres. Est-ce que ces actions lui seront utiles le jour dernier? Non. Tant qu'il n'a pas dit la ilaha illallah et accompli ce qui en découle. Les actions ne sont pas valides s'il n'y a pas de tawhid. Eh bien, pour eux, c'est la même chose de l'autre côté. Celui qui a la foi, tant qu'il a la foi, les péchés ne l'atteignent pas. Tout comme celui qui n'a pas la foi, les bonnes actions ne lui sont d'aucune utilité. C'est énorme comme égarement. فَعِنْدَهُمْ أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ كَامِلُ الْإِيمَانِ غَيْرُ مُعَرَّضٍ لِلْوَعِيدِ D'après eux, celui qui commet un péché majeur a la foi complète et il n'est en aucun cas exposé à la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُمْ تَسَاهَلُوا فِي الْحُكْمِ عَلَى الْعَاصِي وَأَفْرَطُوا فِي التَّسَاهُلِ حَتَّى زَعَمُوا أَنَّ الْمَعَاصِيَ لَا تُنْقِسُ الْإِيمَانِ وَلَا يُحْكَمُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ بِالْفِسْقِ Au point où ils ont Donc ils ont eu du laisser-aller, du laxisme flagrant dans ces questions, jusqu'à dire que les actions ne font pas diminuer la foi. Pourquoi ? Parce que pour eux, la foi est définie comme étant at-tasdiq, la conviction. Tant que tu dis, tant que d'après eux, tu crois, tu es convaincu, eh bien tu as la foi. Cette foi, elle ne baisse pas, elle ne monte pas, les bonnes actions ne la font pas augmenter, les péchés ne la diminuent pas. Tu as la foi complète. Parce que pour eux, ils définissent la foi comme étant at-tasdiq. Et à partir du moment où tu as at-tasdiq, croire en la véracité du message, croire avoir la conviction, eh bien ta foi, d'après leur définition, c'est une foi complète. Et ça, c'est faux. C'est complètement faux. De l'autre côté, nous avons ceux qui sont appelés al-wa'idiyya. Al-wa'idiyya, ce mot vient du mot wa'id. Et wa'id, c'est la menace. Ils ont été appelés wa'idiyya comme quelqu'un qui vient d'un pays. Par exemple, al-Maghrib, le Maroc. On va dire d'un Marocain en arabe, maghribiyun, parce qu'il est du Maroc. On l'a affilié au Maroc, n'est-ce pas ? Ceux qui ont été affiliés à la menace ont été appelés wa'idiyya. Quelqu'un qui a cette croyance est un wa'idiy. Il suit la menace. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Al-Sheikh al-Fawzan nous explique فَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا بِإِنْفَاذِ الْوَعِيدِ عَلَى الْعَاصِي Ils sont ceux qui ont dit qu'il faut absolument que le pécheur soit châtié. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ Pour eux, il a péché, c'est inévitable. Il va être châtié. Donc ils ont exagéré dans la menace. Les premiers ont délaissé complètement les menaces. Les deuxièmes ont exagéré. Il n'y a pas de juste milieu. وَشَدَّدُوا فِي ذَلِكَ Ils ont été durs dans cela. حَتَّى قَالُوا إِنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ فَهُوَ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ وَحَكَمُوا بِخُرُوجِهِ مِنَ الْإِيمَانِ فِي الدُّنْيَا. Ils ont été jusqu'à dire que celui qui commet un péché majeur duquel il ne se repent pas sera dans le feu éternellement et sortira de la foi. Il n'est pas croyant. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et les gens de la sunna sont dans le juste milieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que celui qui commet un péché majeur est considéré comme étant un pécheur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il est exposé à la menace, au châtiment, à la punition d'Allah. Sa foi a baissé. Et nous disons de lui qu'il est un fasiq, qu'il est un pervers. Non pas comme disent les murji'a, qui eux disent qu'il est complet dans sa foi et qu'il n'est pas exposé au péché. Donc premièrement, comme a dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, premièrement, les gens de la sunna n'ont rien à voir avec cela, avec les murji'a. Les murji'a disent, tant que tu crois, tu n'as rien à craindre. Et ta foi est la même que celui du plus pieux. Parce que pour eux, la foi est définie comme étant la conviction. Tu as la conviction, tu as la même foi que l'autre. Lui aussi a la conviction, même s'il est plus pieux que toi. Donc les gens de la sunna ne sont pas comme eux. Ils disent non, c'est faux. Celui qui commet un péché s'expose au châtiment d'Allah. La menace d'Allah Azzawajal est dirigée vers lui. Et c'est un pervers. Jusqu'à ce qu'il se repente. Et quand il se repentira, il ne sera plus considéré comme un pervers. وَلَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ إِنْ دَخَلَهَا. Mais si, mais ils ne le font pas sortir de la foi. Ils disent c'est un pervers, mais ils ne disent pas c'est un kafir pour un péché majeur qu'il a commis. Et s'il est amené à entrer au feu, alors il n'y restera pas éternellement. Parce que le jour dernier, il y a les croyants qui se sont repentis de leurs péchés. Ceux-là, ils entrent au paradis. Il y a les croyants qui ont commis des péchés majeurs, desquels ils ne se sont pas repentis. Ceux-là se divisent en deux. Il y a ceux pour lesquels Allah tabaraka wa ta'ala va décider de les faire entrer au paradis par miséricorde, et c'est un attribut parfait d'Allah. Il va pour eux appliquer cet attribut de la rahma. Et il y a les autres pour lesquels il va appliquer un autre attribut qui est l'adl, la justice. Et ils entreront au feu pour payer leurs péchés et se décharger de leur fardeau. Ensuite, ils en sortiront. Donc si un croyant entre au feu, tant qu'il a le tawhid, il en sortira obligatoirement. Parce que le tawhid, un des mérites du tawhid, c'est que celui qui est amené à entrer au feu, eh bien il ne restera pas éternellement. Parce que seuls les gens du shirk et du kufr resteront éternellement au feu. C'est pour eux que le feu a été créé. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, et prémunissez-vous du feu qui a été préparé pour الْكَافِرِينَ. فَهُوَ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ. Les gens de la sunna disent que celui qui commet un péché majeur sans se repentir, se voit sous la volonté d'Allah. إِنْ شَاءَ عَفَ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِقَدْرِ مَعْصِيَتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Si Allah veut, il va outrepasser, absoudre ce qu'il a fait, et le laissera donc entrer au paradis. Et s'il le veut, il châtiera pour le péché, et quand il se sera déchargé de son péché, il en sortira, c'est-à-dire du feu, pour entrer au paradis. Contrairement à ce que disent les Wa'idiyya, les adeptes de la menace, parmi justement Al-Khawarij, wal-ayyadhu billah, et autres. Al-Murdi'a, akhadhu binusus il-wa'id. Les Murji'a se sont appuyés sur les textes de quoi? De l'espoir. Les textes relatifs aux promesses faites par Allah à ceux qui font de bonnes actions, ceux qui sont croyants. Ils se sont contentés de ces textes-là. Et Les autres se sont appuyés sur les textes de la menace. Et les gens de la Sunna sont au milieu. Ils utilisent tous ces textes et disent que celui qui est pieux fait de bonnes actions est susceptible de gagner ce qu'Allah lui a promis. Celui qui est pervers et commet des péchés sans se repentir s'expose à la menace, tout simplement. Quatrièmement, وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. La question suivante, qui est un des domaines dans lesquels les gens de la Sunna sont encore dans le juste milieu et occupent une position médiane, l'auteur nous dit, concernant les noms de la foi et religion, ils sont entre les Haruriyya et les Mu'tazila, et entre les Murji'a et les Jahmiyya. C'est vrai que quand tu lis une phrase comme ça, je ne pense pas que tu vas la comprendre. D'où l'importance d'apprendre. Surtout qu'ici, c'est une traduction. Donc, quand tu lis en français « mourdit »,« jamit », »,« mutazilit », tu ne comprends rien. L'essentiel, c'est qu'on va comprendre, Inch'Allah, d'après ce que nous enseigne le noble Cheikh Saleh al-Fawzan, « Hafidhahullah ». Qu'est-ce qui est voulu par ce qui est appelé les noms de la foi et, les noms de la foi et religion ? C'est-à-dire le jugement d'une personne comme étant croyante, kafir, fasiq, ce sont des jugements. Ce sont des jugements qui sont prononcés sur des personnes. Comment agissent les gens de la sunna par rapport à cette question, celle de juger la personne qu'elle est croyante ou non, mu'min, kafir, fasiq? Eh bien, il y a des gens qui ont suivi une extrême et d'autres qui ont du laxisme. Les gens de la sunna sont au milieu. Et aussi concernant la rétribution de ceux qui ont désobéi à Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà, ça entre dans cette question du jugement de la personne. Les gens de la sunna sont entre deux catégories de personnes. On a ceux qui sont appelés al-haruriyya avec ceux qui sont appelés al-mu'tazila. Qui sont al-haruriyya? Al-haruriyya, c'est un nom donné aux khawarij. Pourquoi ils ont été appelés haruriyya? Car à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala an, en Irak, ils se sont réunis dans un endroit. Ali était le gouverneur. Et eux voulaient s'opposer à lui et se rebeller contre lui afin que le régime tombe. C'est le même cas qui se produit aujourd'hui. Ce sont les petits-enfants des Khawarij qui sont aujourd'hui en train de polluer la communauté musulmane et de permettre toute cette injustice qu'ils font au nom de l'islam alors qu'ils ne le font que au nom de Shaytan. Comme a dit le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah. Ils ont été appelés Haruriyya parce qu'ils se sont isolés de la société musulmane. Ils ont quitté les rangs de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et ont été dans un endroit appelé Harura, Harura. Donc les gens de cet endroit ont été appelés Haruriyya. Comme si tu allais t'isoler dans quelle ville on pourrait, n'importe quelle ville, et puis on te donne le nom de l'appartenance à la ville, Dunisien, etc. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, a demandé à cette époque l'autorisation à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, d'aller voir les Khawarij à Harura pour leur parler d'Allah et pour leur parler de la Sunna. Peut-être sera-t-il la cause de leur repentir. Au début, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, n'a pas voulu que Abdullah ibn Abbas s'y rende. Mais après insistance, il a autorisé Abdullah ibn Abbas d'aller à Harura pour dialoguer avec eux. Il a porté les meilleurs vêtements. Et lorsqu'il est arrivé, il dit que il a entendu au loin des bourdonnements. Il s'est rapproché d'eux et il a vu qu'ils étaient tous en train de lire le Coran. Et ça, c'est comme le prophète a dit, alayhi salat wa salam. Il a dit des khawarij, vous mépriserez votre lecture du Coran devant la leur, vos adorations devant les leurs. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'actions. Quand Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, un des plus grands savants du Coran, est arrivé, il les a tous vus avec un Coran. Ils avaient les signes de la dévotion, de l'adoration, ils faisaient beaucoup d'ibadah. Mais ça, chez Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas dans la sunna, ça ne sert à rien. Pour cette raison, le prophète alayhi salat wa salam a dit, « Yaqra'un al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. » Ils réciteront le Qur'an, mais il ne dépassera pas leur clavicule. Dans le sens où cette lecture du Qur'an, il y a deux explications. Elle n'est pas élevée chez Allah. Elle n'est pas présentée à Allah. N'en veut pas parce qu'ils sont dans l'innovation. Deuxièmement, لا تنفعهم القراءة لأنهم لا يفهمون المعاني الصحيحة. Cette lecture ne leur est d'aucune utilité car ils n'en comprennent pas l'essence. Donc, ils ont été appelés Harura. Eux, il y a avec eux Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ce sont les suiveurs du dénommé Wasil ibn Ata. Wasil ibn Ata, qui à l'époque de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui est un grand tabi'i, parmi les imams de la sunna, ils étaient dans une assise à discuter d'une question dogmatique, une question de aqidah qui est « Que va-t-il advenir de celui qui commet un péché majeur ?» Et les Mu'tazila ont pour croyance qu'il est dans le feu éternel, qu'il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant, mais donc il est quoi? Kafir? Non, il n'est pas kafir. Ils ont inventé ce que l'on appelle manzilatun bayna al-manzilatayn. Il est dans un degré entre les deux degrés. Il est entre la foi et la mécréance. Vous l'avez perdu. On ne sait pas il est où. Dans l'islam, Allah Azza wa Jalla a dit huwallazi khalaqakum, c'est celui qui vous a créé. Faminkum madha? Qu'est-ce qui connaît le verset? Hein? اقرا فمنكم مؤمن نعم فمنهم كافر ومنكم مؤمن هذا هو celui qui vous a créé il y a parmi vous celui qui est mécréant celui qui est croyant il n'y a pas un degré entre les deux un degré intermédiaire à cause de cela il a quitté l'assise de Al-Hassan al-Basri et il a fait ce que l'on appelle al-i'tizal l'isolement. Il s'est isolé de l'assise. On les a alors appelés ces gens-là Al-Mu'tazila, les isolants, ceux qui se sont isolés, c'est-à-dire en référence à cette histoire-là, où ils se sont isolés avec leur croyance, de la croyance des gens de la Sunna. Donc, Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, les Khawarij et les Mu'tazila, les Haruriya et les Mu'tazila s'accordent pour dire que il sera le pécheur majeur éternellement dans le feu. Ensuite, il ne s'accorde plus sur le reste, car les Khawarij disent que c'est un kafir, et les Mu'tazila disent qu'il est entre les deux degrés. Ça, c'est le côté de ceux qui ont exagéré. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, nous décrit ce que je viens de vous résumer. Quant aux gens de la sunna, wa ahlu sunnati wal jama'a, tawassatu bayna al firqatayn. Les gens de la sunna occupent une position médiane entre ces deux groupes. Que disent-ils? Celui qui désobéit à Allah azza wa jal ne sort pas de l'islam à cause de ce péché. Ce n'est pas parce qu'il a consommé un produit illicite, une boisson enivrante, une drogue, autre, qu'il quitte l'islam. Ce n'est pas parce qu'il ment qu'il quitte l'islam. Non, c'est un égarement de dire ça. Et aussi, ils disent qu'il est sous la volonté d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, s'il ne s'est pas repenti de son péché, soit Allah le châtie par justice, puis le fait entrer au paradis lorsqu'il se sera déchargé de son fardeau, soit Allah Azza wa Jal lui fait miséricorde et le fait entrer au paradis. Et il ne restera pas éternellement dans le feu s'il est amené à y entrer, comme le disent les Khawarij al-Mu'tazila. Avez-vous compris dans quoi est-ce qu'ils sont d'accord? Ils sont d'accord dans l'éternité au feu, les Khawarij et les Mu'tazila. Puis, ils se séparent. Est-ce qu'il est croyant ou non? Les Mu'tazila disent non. Mais on ne dit pas non plus qu'il est croyant. Les Khawarij disent c'est un kafir. Il n'est pas croyant du tout. Les gens de la Sunna disent aussi « وَالْمَعَاصِ تُنْقِسُ الْإِمَانِ » Les péchés font baisser la foi. « وَيَسْتَحِقُّ صَاحِبُهَا دُخُولَ النَّارِ » Et celui qui les commet mérite l'entrée au feu. Vous entendez? Les gens de la Sunna utilisent des termes précis. Ils ne disent pas « il va entrer au feu ». Ils disent « il mérite le feu ». Ça, c'est très important. C'est-à-dire que son péché lui fait mériter une rétribution. Mais il peut être pardonné. Vous avez compris? On ne dit pas il va entrer au feu. Et quand tu vois des textes de menace, sache qu'ils veulent dire il mérite. Sauf que quand tu t'adresses au awam al-muslimin, à la masse des gens, comme l'a dit l'imam Ahmad rahimahullah dans son livre Usul Sunnah, qu'Allah nous a facilité d'enseigner, walhamdulillah, à ce moment-là, tu laisses le hadith comme il est, dans son sens. Celui qui fait telle chose entre au feu. Celui qui fait telle chose entre au feu. Mais lors de l'étude scientifique de la question, tu t'aperçois que ce qui est voulu, c'est que celui qui fait telle chose mérite, risque, est menacé d'entrer au feu. Mais il y a des autres paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que celui qui ne comprend pas, il prend le hadith, il le lit, il sort, il fait des dégâts. Il dit, j'ai la preuve, j'ai le dalil, j'ai le verset, j'ai le hadith. Je ne sais même pas ce que veut dire le mot dalil. Allah musta'an. Donc ça c'est très important mes frères, retenez-le. Illa an ya'fu Allahu an. Il mérite le feu, sauf si Allah lui pardonne ou l'absout. مرتكب الكبيرة يكون فاسقا ناقص الإيمان. Celui qui commet un péché majeur est un pervers à la foi qui a baissé. Non pas comme le disent al-Murji'a. Un autre point montrant que les gens de la Sunna occupent une position médiane. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. Ils occupent une position médiane, dans la croyance que nous devons avoir vis-à-vis des compagnons. Lorsque tu étudies l'aqida, la croyance islamique, tu apprends qu'un des sujets, un des domaines, un des chapitres de la croyance, c'est la croyance du musulman, la conviction du musulman vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que veut dire un compagnon tout d'abord, avant d'entrer dans le détail de la croyance? As-sahabi, le compagnon, man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Mu'minan bihi, en ayant foi en lui. Wa mat ala dhalik. Puis il est mort sur cette conviction-là. Dans sa vie, il l'a rencontré au moins une fois. Vous entendez? On dit rencontré et on ne dit pas vu. Savez-vous pourquoi? Parce que si dans la définition, les savants du hadith avaient dit celui qui a vu, l'aveugle n'aurait pas été considéré comme un compagnon. Et il y avait des aveugles chez les compagnons comme Ibn Ummi Maktoum, radiyallahu anhu. Il faisait l'appel à la prière. Et il attendait que quelqu'un voie pour l'annoncer, tu peux commencer, puis il faisait l'appel à la prière, il était aveugle. Donc ils ont dit, celui qui a rencontré, il a été en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, il a cru en lui, et il est mort sur cette foi. Lui, c'est un compagnon. Quel est notre devoir vis-à-vis des compagnons du prophète, alayhi salat wa salam? C'est d'occuper une position médiane dans ce que nous devons croire d'eux, entre deux extrêmes. Entre ceux que l'on appelle al-Rafida. 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 Ce sont les pires des créatures. Ce sont les plus dangereux, les plus mauvais. Et ils n'ont pas un grain, un atome de foi dans leur cœur. Ce sont des hypocrites. Mais ils s'affilient à l'islam. Rafida, c'est la plus grosse branche des chiites. Ceux qui, dans leur conviction, croient qu'il faut insulter Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, dans leur croyance, la plupart des compagnons, après la mort du prophète alayhi salat wa salam, ont abandonné l'islam. Hypocrites, ils sont. Les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, dans leur prière, ils invoquent Allah en lui demandant de maudire Aïcha, de maudire Abu Bakr et Omar, surtout les deux. Et d'ailleurs, dans leur pays, ils font des fêtes à la soi-disant date de la mort de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, puis ils amènent un chien qu'ils torturent à mort. Et ils disent c'est Omar, c'est une fête pour eux. Wal'iyadhu billah. Ils disent de la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils disent dans le tafsir, la vache c'est Aïcha, c'est elle qu'il faut immoler. Wal'iyadhu billah. Ils disent que Aïcha a trompé son époux, alayhi salat wa salam, a commis l'adultère. Ils disent de la parole d'Allah Azza wa Jal, Tabbat yada Abi Lahab, que les deux mains de Abu Lahab périssent. Les deux mains, en réalité, ce qui est voulu, c'est Abu Bakr et Omar. Donc voilà comment ils parlent des compagnons. Ils disent que Jibril alayhi salam a trahi la amana. Quand Allah azza wa jalla lui a donné la révélation du Coran, il devait l'amener à Ali. Et il l'a emmené à Muhammad alayhi salat wa salam. Ashadul kuffar fi dunya, Rafida. Les pires des kuffars de ce bas monde. Rafida. Ils détestent les gens de la sunna et dans leur croyance, il faut les tuer. Wal'iyadhu billah. Ils sont les plus dangereux. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés ainsi? Ils ont été appelés ainsi, cette appellation Rafida, du point de vue historique, a vu le jour, d'après une parole des historiens, lorsque Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali, Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala, c'est-à-dire le quatrième petit-fils de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. On va dire qu'ils se sont présentés à lui et lui ont dit Tabarra min Abi Bakrin wa Omar. Est-ce que tu te désavoues de Abu Bakr et Omar? Il leur a dit La ma'ad Allah. Il leur a dit A'udhu billah. Qu'Allah me préserve. بل أتولاهما. Au contraire, je les prends en allié. فرفضوا. Ils l'ont alors refusé. Ils ont refusé d'être à ses côtés. Du verbe رفض, qui veut dire refuser. Alors il leur a dit اذهبوا. Allez-vous-en. فأنتم الرافضة. Vous êtes les رافضة. Vous êtes ceux qui avaient refusé. Voilà l'histoire de leur appellation رافضة. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a dit wa madhhabuhum fi sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahum ghalaw fi Ali radiyallahu anhu wa ahli al-bayt. Leur croyance vis-à-vis des compagnons, c'est qu'ils ont exagéré à l'égard de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et des ce que l'on appelle ahlul bayt, la famille du prophète alayhi salatu wa salam, wa faddaluhum ala ghayrihim. ونصبوا العداوة لبقية الصحابة. Ils ont manifesté la haine. Ils ont témoigné une haine sans pareil aux autres compagnons. Ils ont exagéré avec les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi particulièrement les compagnons avec lesquels ils ont exagéré, Abu Bakr, Umar, Uthman radiallahu anhum. Le cheikh a dit « وَسَبُّوهُمْ وَلَعَنُوهُمْ » Ils les ont insultés et maudits. وَرُبَّمَا كَفَّرُوهُمْ أَوْ كَفَّرُوا بَعْضَهُمْ Ils les ont taxés d'apostats, de mécréants, et ils ont agi ainsi avec d'autres encore. وَقَابَلَهُمْ الْخَوَارِجِ Ça, c'est la première extrême. La deuxième extrême par rapport aux compagnons, ce sont الخوارج. Donc vous avez vu الخوارج, tous les égarements qu'ils ont. Premièrement, dans les textes de la menace, ils sont égarés. Deuxièmement, ici, dans la croyance vis-à-vis des compagnons, qu'est-ce qu'ils disent ? فَكَفَّرُوا عَلِيًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَّرُوا مَعَهُ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ Ils ont taxé de mécréants Ali ibn Abi Talib, رضي الله عنه, et beaucoup aussi de compagnons. وَقَاتَلُوهُمْ Ils les ont combattus à l'épée. وَاسْتَحَلُّوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ Et ont déclaré licite leurs biens et leur sang. De qui on parle ? Sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont eux qui ont assassiné Uthman ibn Affan. Radiallahu ta'ala anhu wal'iyadhu billah. Ils ont escaladé le mur, ils sont venus d'Égypte où ils ont comploté contre lui. Puis ils ont réussi à réunir des gens, à former un groupe. Et ils se sont dirigés jusqu'à Médine où ils ont escaladé le mur et ils l'ont assassiné. Radiallahu ta'ala an. Et juste avant de mourir, il leur a dit « Je suis Uthman ibn Affan, celui qui a accompagné le prophète alayhi salatu wassalam. » Il a parlé de lui, ils lui ont dit « Menteur, tu es un kafir », ils l'ont tué. Wal'iyadhu billah. Et ces gens-là auront le péché de tous les khawarij de cette époque qui salissent l'image de l'islam. Parmi ceux qui sont contemporains, Daesh, Al-Qaïda, et tous ceux qui les suivent, même indirectement, l'Ikhwan al-Muslimoun, Khawarij, les frères musulmans sont des Khawarij. Ne vous faites pas avoir. Ce sont des Khawarij en cravate et en costume. Il y a les Khawarij armés, et il y a les Khawarij diplômés. Parmi eux, l'Ikhwan al-Muslimoun. Comment sait-on qu'ils font partie des Khawarij ? Car dans les fondements, dans les sectes, il faut revenir à leurs fondements. Que sont les livres lus par les Ikhwan, par les frères musulmans? Les livres de Sayyid Qutb, le maître des Khawarij de cette époque. Quels sont les livres, pardon, là, et quels sont les livres lus par Daesh et autres? Sayyid Qutb. C'est la même chose. Ils viennent d'une même niche. Ils sont tous mauvais pour l'islam et pour les musulmans. Qu'Allah Azza wa Jal préserve de leur mal. Et partout où il y a Ahlus Sunnah, remarquez bien, partout où il y a Ahlus Sunnah, eh bien Allah Azza wa Jal préserve les gens de tomber avec les Khawarij. Préserve les gens de tomber avec les gens de la Bid'a. Wa Ahlus Sunnah wal Jama'a khalaful jami'. Les gens de la Sunnah ont contredit toutes ces sectes-là. Toutes. فَوَالَوْ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ Ils ont fait alliance avec tous les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام وَلَمْ يَغْلُوا فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ Sans exagérer avec aucun d'entre eux وَاَعْتَرَفُوا بِفَضْلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ Ils ont reconnu le mérite de l'ensemble des compagnons وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا Ils ont reconnu qu'ils sont la meilleure des communautés après son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Fawzan nous explique qu'il y a un autre chapitre là qui va arriver inshallah, et là on aura l'occasion de voir plus de détails. Ensuite l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. L'auteur dit: entre dans le cadre de la foi en Allah que nous avons évoqué, la foi en ce qu'Allah a affirmé dans son livre, en ce qui est parvenu de son messager sallallahu alayhi wa sallam de façon sûre, et ce que les pieux prédécesseurs de la communauté ont unanimement accepté, à savoir qu'il est au-dessus des cieux, sur son trône, bien élevé au-dessus de ses créatures, tout en étant avec eux où qu'ils soient, sachant parfaitement ce qu'ils font. Tout cela a été résumé dans sa parole, dans le sens rapproché. Ça, c'est un verset dont on a déjà étudié l'explication. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. طيب. Je vais terminer. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. Le Cheikh continue, rahimahullah ta'ala, et nous dit: sa parole, et il est avec vous, ne signifie pas qu'il soit mêlé ou mélangé à sa création, car le langage n'implique pas nécessairement ce sens. De plus, cela serait contraire au consensus des pieux prédécesseurs de la communauté et contraire à la saine nature originelle, la fitra, dont Allah a doté ses créatures. La lune est un des signes d'Allah et fait partie de ses créatures les plus petites. Elle est placée dans le ciel et pourtant elle est avec le voyageur et le résident où qu'il soit. Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, attentif à ses créatures, les dominant par sa surveillance et sa protection, informé à leur sujet et autres qualités inhérentes à sa rububiyya. Donc dans ce sujet-là, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous cite l'obligation de croire qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Il est élevé au-dessus de ses créatures tout en étant avec eux. Et ça, on l'a détaillé, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Le Cheikh, il va apporter, rahimahullah, quelques détails. Et ainsi, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit: que l'auteur, rahimahullah, a cité principalement ces deux questions qui sont l'istiwa ala al-arsh, élévation au-dessus du trône, et ma'iyatuhu lil-khalq, le fait qu'il soit avec ses créatures, pour dissiper une problématique qui pourrait se poser, qui est de croire que c'est contradictoire de dire qu'il est élevé au-dessus de ses créatures et de dire qu'il est avec ses créatures. Quelqu'un ne comprenant pas pourrait dire que c'est contradictoire. Eh bien justement, pour enlever cette conception erronée, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a cité ce point. Car quelqu'un pourrait penser que cela est similaire aux attributs des créatures. Lorsque nous disons des créatures, un tel est avec moi, C'est-à-dire, il est avec moi dans l'endroit. Quand je dis, je parle d'un lieu, je dis, il était avec moi à la mosquée. J'ai dit qu'il était avec moi, n'est-ce pas? Eh bien, quand je dis Allah est avec moi, subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'Allah azza wa jalla est mêlé à ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Non, la réponse à cette ambiguïté se fait par plusieurs points. Le premier, du point de vue linguistique, dans la langue arabe, le terme « ma'a » traduit par « avec », ce terme-là, nous l'avons déjà vu, ne signifie pas forcément « avec » physiquement. Un exemple, si je dis de la lune, comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, la lune est avec nous. À chaque endroit, elle est avec nous. Est-ce que la lune est avec toi ici, dans cet endroit? Non. C'est-à-dire qu'à chaque fois où tu vas, tu la vois. Tu la vois, n'est-ce pas? Quand tu parcours de longs kilomètres, tu as l'impression qu'elle est avec toi. Mais est-ce qu'elle est là physiquement avec toi? Non, elle est dans l'espace. Si je dis, je suis avec toi dans cet avis, est-ce que ça veut dire que je suis avec toi physiquement? Non. Ça veut dire que j'adhère à ton idée, n'est-ce pas? Si je dis je suis avec toi à la mosquée, là ça veut dire physiquement je suis avec toi. Donc du point de vue de la langue arabe, ma'a traduit par avec ne veut pas forcément dire physiquement. Donc ça c'est premièrement. Puis le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, a cité l'exemple de la lune qui avait été cité par l'auteur, rahimahullah. Deuxièmement, cette parole contredit le consensus des salafs. Les salafs sont unanimes. Les sahaba, les tabi'un, atba' tabi'in, les trois premières générations, ils sont tous unanimes dans cette question. Celle de dire qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. Faqad ajma'u ala anna Allah mustawin ala arshi. Ils sont unanimes pour dire qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Alin ala khalqihi, au-dessus de ses créatures. Ba'inun minhum, c'est-à-dire distinct de ses créatures. Et ce terme-là, ba'inun, a été utilisé par Abdullah ibn al-Mubarak, un des imams des salafs, rahimahullah, pour répondre à ce qu'on appelle ceux de la croyance hululiyya, ceux qui disent qu'Allah est mêlé à ses créatures, Allah est dans ses créatures. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ Ibn al-Mubarak a dit بَاِنُن مِنْ خَلْقِهِ. Il est au-dessus de son trône, distinct de sa créature, c'est-à-dire il n'est pas mêlé à sa créature. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَعَ خَلْقِهِ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ils sont unanimes pour dire qu'il est avec ses créatures de par son savoir. عَزَّ وَجَلْ كَمَا فَسَّرُوا قَوْلَهُ تَعَالَى وَهُوَ مَعَكُمْ بِذَلِكَ. C'est ainsi qu'ils ont expliqué la parole « Wa huwa ma'akum » et il est avec vous. Troisièmement, cela ne concorde pas avec la nature saine, originale de l'homme. Donc là, on a vu les preuves, Qur'an, Sunnah, même du point de vue de la nature de l'homme. Même chez les polythéistes, ils disent « Remercie le ciel de nous avoir donné ce repas. » Vrai ou faux? C'est du shirk cette parole. Mais le ciel, la notion de « au-dessus » toujours. Même chez les polythéistes, il y a une notion de « au-dessus ». Et l'enfant, quand il est né, je me souviens d'un enfant à qui on n'avait pas appris qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus. Je lui demande « Où est celui qui t'a créé ?» Il me dit au-dessus. Comment le sais-tu? Il m'a fait. Il a bougé ses épaules pour me dire, je ne sais pas. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est la fitra qui dit ça. C'est la nature saine. Pourquoi tu me poses cette question? Tout comme quand je respire, je ne me rends pas compte. Je respire, c'est tout. L'être humain respire. Pareil, Allah est en haut, subhanahu wa ta'ala, la fitra le prouve. Comme le dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى. Pour cela, l'homme, la créature, quand elle a besoin de demander, elle se lève. C'est pour cette raison que, comme l'a dit l'imam, le Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, un des salafs a eu une discussion, il a dialogué avec quelqu'un qui refuse de dire qu'Allah est au-dessus. Et alors, il lui a dit, je vais te poser juste une seule question. Je voudrais que tu m'y répondes. Pose-moi ta question, lui a-t-il répondu. Et le dernier de répondre et de dire, explique-moi pourquoi on ressent le besoin de lever nos mains pour faire doa. Vous savez ce qu'il a dit ? Hayyarani. Il m'a laissé perplexe. Et cette question-là l'a dérangé pendant de longues années. Parce qu'il n'a pas réussi à répondre à une question aussi simple que ça. Pourquoi tu éprouves le besoin ? C'est naturel, c'est automatique. Tu lèves. Pourquoi ? Parce que le cœur, il est créé comme ça. Le cœur, il sait qu'Allah, il est au-dessus. Subhanahu wa ta'ala. Na'am wa ta'ala. Et c'est ce que ça veut dire, wa ta'ala ? Il est au-dessus. Élevé soit-il. Quatrièmement, al-wajhu al-rabi'. C'est contre, ça contredit ce qui est rapporté dans le livre d'Allah, Azza wa Jal, et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa lillahi alhamd. Quant à la parole de l'auteur, rahimahullah, وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم et il est au-dessus de son trône, il observe ses créatures, il les domine, les voit, les observe. تقرير وتأكيد لما سبق من ذكر علوه على عرشه وكونه مع خلقه بذكر اسمين من أسمائه سبحانه وهما الرقيب والمهيمن. Ici, il a confirmé ce qui vient d'être dit, à savoir qu'Allah est au-dessus de ses créatures, en citant deux de ses noms. Al-Raqib, celui qui observe, Al-Muhaymin, celui qui domine. قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. Allah vous observe parfaitement. Donc, Raqib, c'est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. والرقيب هو المراقب لأحوال عباده وفي ذلك دلالة على قربه منهم. Il y a une preuve en cela qu'Allah est proche du point de vue de sa science et de sa connaissance de leurs différents états, de leurs actions et paroles. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. C'est lui Allah celui en dehors duquel nulle divinité ne mérite l'adoration. Al-Malik, le roi qui possède, Al-Quddus, Al-Salam, le pur, Al-Quddus, celui qui est pur dans ses noms et attributs, Al-Salam, celui qui est pur en lui-même, Al-Salimu li-Nafsi, Al-Musallimu li-Ghayri, comme a dit l'imam Sa'di, rahimahullah, Al-Salam, celui qui est en lui-même, exempt de tout défaut, et c'est lui qui protège les autres. Et il termine par le nom Al-Muhaymin. Wal-Muhaymin huwa shahidu ala khalqihi, al-muttali'u ala a'malihim, al-raqibu alayhim. Al-Muhaymin, c'est celui qui observe parfaitement ses créatures, il connaît parfaitement leurs faits et gestes, leur situation. إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. Et autre encore sens relatif à sa ruboubiyya, à sa seigneurie. Subhanahu wa ta'ala. أي أن مقتضى ربوبيته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته. C'est-à-dire que sa seigneurie implique qu'il soit au-dessus de ses créatures par son essence. En lui-même, subhanahu wa ta'ala, bidhatihi, wa yattali'u ala a'malihim, wa yakuna qariban minhum bi'ilmihi wa ihatatih, yusarrifu shu'unahum, wa yuhsi a'malahum, wa yujazihim alayha. Il observe ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, il gère leurs affaires, azza wa jal, il dirige leurs affaires et il compte leurs actions, subhanahu wa ta'ala, puis il les rétribue. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.